C'est pas encore ça. Hein? Bonjour à tous. Voilà, voilà, voilà. J'aime beaucoup ça. J'aime lorsque vous êtes réveillés. Encore une fois, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous visitent, tous ceux qui sont de passage, tous ceux qui sont en vacances, et même ceux qui ne le sont pas. Nous avons besoin de repos, nous avons besoin de déconnexion des fois. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah. Apparemment, un quart de la salle est d'accord avec moi, mais bon. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que c'est toujours une joie de vous voir, de voir des visages très sérieux, d'autres qui sont plus souriants. Je dis ça et puis tous les visages ont changé. Mais surtout, c'est une joie de nous retrouver ensemble pour louer le Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que, malgré les circonstances difficiles, vous arrivez à trouver la joie que le Seigneur donne. Nous passerons un moment où il n'y aura plus de moments difficiles. Moi, je vous le garantis. Il n'y aura plus de maladies. Ça, ce n'est pas moi qui le garantis, ça, c'est le Seigneur par la parole. Mais je partage ma conviction avec vous et je pense que nous le partageons ensemble. Qu'un jour viendra, il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de maladies. Et le plus grand ennemi de l'homme sera vaincu, la mort. Et ce jour, c'est notre espérance. C'est le retour de Jésus-Christ. Dans une relation, quand on sait que la personne s'est éloignée, quand on sait qu'il y a une séparation physique, mais que la relation perdure, hein, la relation continue, on a hâte de retrouver la personne. Je vois la chose, elle me regarde. Oui. J'ai été séparé 3 ans de ma famille. 3 ans où je comptais les vacances pour rentrer en Martinique, pour voir la famille. Vous savez, parce que, voilà, être ensemble, c'est magnifique. Avec tous les bons et les mauvais moments. On reste dans la réalité. Quand je dis mauvais moment, ça ne veut pas dire que les casseroles sont... C'est pas ça. Je parle des mauvais moments où peut-être une parole a été dite et qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas apprécié. Vous voyez, ces moments-là. Mais je peux vous dire que le retour du Seigneur procure le même sentiment pour moi. J'ai hâte de retrouver mon Seigneur. Pas de mourir, hein? De retrouver mon Seigneur. J'ai ce jour-là en perspective. Et je vous invite aussi à avoir ce jour-là. Mais d'ici là, faisons de notre mieux. Persévérons dans la sanctification, dans la sainteté, afin de voir le Seigneur, afin de monter avec lui quand il reviendra. Nous sommes en vacances, c'est bien. Pour certains, c'est bien. Pour d'autres, on continue à travailler, mais le rythme est différent. Pendant les vacances, on cherche un endroit où on pourra se détendre, on pourra être bien. Mais surtout, ce qu'on cherche, c'est un endroit où on se sent en sécurité. Amen. Parce que ça ne sert à rien d'aller en vacances et puis de passer toutes les vacances sous le lit. Ou bien caché dans la maison. Ce ne sont pas des vacances. Ce matin, c'est sur ce sujet-là que j'aurais aimé partager justement ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Pas les vacances, mais sur cette notion de sécurité. Attachez-vous, nous découvrons. Tout le monde aime se sentir en sécurité. Lorsque nous sommes sur la route, dans la voiture, nous avons la ceinture de... Lorsqu'on annonce un mauvais temps, on nous dit de nous mettre en... Cette notion de sécurité, l'homme le cherche. On peut parler de tout type de sécurité. Cette quête, cette recherche de sécurité. Certains cherchent une sécurité émotionnelle. On veut se sentir en sécurité émotionnellement. D'autres cherchent une sécurité physique. Parce qu'on peut-être qu'on a peur et on aimerait avoir des gens autour de nous pour nous protéger. Il y en a qui dépensent des fortunes pour embaucher un garde du corps. Mais est-ce que cette sécurité, est-ce qu'elle garantit vraiment ce que la personne recherche? À la télé, on voit toutes sortes de gardes du corps. On voit celui qui est comme ça, mais qui ne sourit pas. Vous savez, lorsque j'étais jeune, j'aimais faire ça. Hein? J'arrive quelque part et puis j'étais plus costaud que ça. Hein? J'arrive quelque part et puis je ne souris pas. Puis je suis comme ça. Les postes de sécurité, j'aimais bien. J'arrive là, je suis comme ça. Et puis un jeune passe. Tu vas où là? Non. On aime ça. Mais même là encore, en faisant, en jouant aux sécurités, au chef sécurité, ma vie n'était pas en sécurité. Parce que je pouvais avoir n'importe qui venir m'attaquer et me tuer aussi. Finalement, où est-ce qu'on peut trouver la vraie sécurité? Tout le monde répondra
dans le Seigneur.
Dans le Seigneur. Amen. Et c'est la vérité. Mais cela n'empêche que lorsque nous sommes en face du danger, qu'on puisse paniquer. Et c'est là ce matin, je vous invite à méditer sur un psaume. Un psaume d'un homme qui s'est senti en sécurité auprès de Dieu. C'est le psaume 27. Ouh, comment tu étais derrière, tu as vu mon message, c'est ça? Le psaume 27. Je vous invite à lire le psaume 27 ce matin. Ce psaume commence par une affirmation. Oui. Il n'y a pas de doute. Tout ce qui va être dit là, David, c'est un psaume de David. David est convaincu que tout ce qu'il va dire là, c'est la vérité. De toute façon, la parole de Dieu est la vérité. Il commence ainsi. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître, dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerai. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier légal. Égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Amen.
Amen.
Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour cette parole en ce matin. Parmi nous, Seigneur, peut-être qu'il y a des cœurs qui se sentent dans l'insécurité. Peut-être qu'il y en a d'autres personnes qui sont perdues. Et d'autres personnes qui ne savent pas quel chemin prendre, Seigneur. Mais peu importe dans les situations ou dans ce que nous vivons, Père Saint, aujourd'hui, nous te remercions et nous te bénissons, Seigneur, pour ces paroles. Oui, que deviendrais-je si je n'ai pas l'assurance d'expérimenter les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants? Alors, Seigneur, on espère en toi, car nous savons que notre espérance n'est pas vaine. Alors, Père, instruis-nous par ces paroles et que nous puissions être fortifiés dans notre vie, dans notre âme, Père Saint, pour la gloire de ton nom. Amen.
Amen.
L'homme qui a écrit ces mots, ce n'est pas un homme qui a connu une vie tranquille. Pas un homme qui a connu une vie sans problème. L'homme qui a écrit ce psaume était un roi. Il n'était pas un président. Où on ne fait que critiquer tout ce qu'il fait, tout son gouvernement. Un roi, c'est quelqu'un qui avait tous les doigts. Un roi, c'est quelqu'un qui manquait de rien. Parce que tout ce que possédait son royaume lui appartenait. Homme et bien matériel. C'est un homme qui manquait de rien. Mais un peu plus haut, dans les psaumes qu'il a écrits, le psaume 23, dont je suis sûr que beaucoup d'entre nous connaissent bien, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne s'est pas appuyé sur son statut, sur sa royauté, pour dire que j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai à manger, j'ai tout. Donc, je ne manquerai de rien. Non, il s'est appuyé sur l'Éternel.
Amen.
Le croyant doit toujours s'appuyer sur l'Éternel. Vous étudiez, vous êtes performant, vous êtes brillant. Oh! Toujours en tête. Pas parce que vous êtes intelligent, vous êtes brillant, c'est parce que Dieu vous fait grâce. Au travail, vous avez de très bonnes évaluations de vos responsables. On aime bien votre façon de travailler. Oui, vous le faites. C'est une réalité, c'est une vérité. Vous le faites vraiment. Mais vous le faites parce que Dieu vous fait grâce. Là, je parle de celui qui connaît le Seigneur. Mais même l'homme qui ne connaît pas Dieu, il ne peut pas prétendre que c'est de lui, c'est lui qui est comme ça. Non. Même celui qui ne connaît pas Dieu, que nous voyons qui brille. Il y a certains, quand ils prennent un ballon sur leur pied, on a l'impression qu'ils mettent de la colle sur le pied. Ils font tout ce qu'ils veulent avec le ballon. J'ai essayé, mais ça n'a pas réussi. Mais même celui-ci, c'est un talent que Dieu lui donne. Dieu l'a ainsi créé. Il n'y a pas deux créateurs. Il n'y a qu'un seul créateur. Malheureusement, certains n'ont pas la reconnaissance de se tourner vers ce créateur pour le glorifier, pour ce qu'il leur a donné. La providence de Dieu ne dépend pas de notre foi envers lui. La providence, Dieu est provident envers nous. Dieu manifeste sa providence envers nous. Dieu pourvoit nos besoins parce qu'il nous a tout simplement créés. Il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Mais il y a une différence. Lorsque l'homme se tourne vers Dieu pour le glorifier, il y a une différence. Ce n'est pas le fait d'être béni, d'avoir tout ce qu'on veut, d'être en bonne santé. Le plan de Dieu, ce n'est pas ça. Le plan de Dieu, c'est de sauver l'homme qu'il a créé. Tout ce qu'on vit, c'est de la providence qui fait partie du plan de Dieu. Mais l'essentiel du plan de Dieu, c'est qu'au jour de l'Éternel, tous ceux qu'il a connus d'avance, qu'il a prédestinés, tous ceux qui ont accepté le Seigneur, tous ceux qui croient en Jésus, puissent être sauvés et vivre avec leur Père. Amen. Donc, que votre compte bancaire soit rempli d'argent, ou que votre poche soit trouée, parce que les pièces sont percées, il n'y a plus rien. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes avec votre Créateur. Parce qu'on peut tout perdre. Hein? On peut tout perdre en une seconde. Job a perdu tout ce qu'il possédait, toute sa famille, en une journée. Moi, je me dis, il avait un cœur robuste. Hein? Mais il n'a pas renié le Seigneur. David a dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et je peux vous garantir que c'est une vérité. Le Seigneur prend soin de ses enfants. Amen.
Amen.
David commence ce psaume en disant, oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? Il est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Peut-être qu'on ne peut pas parler de comme David a parlé dans ce chapitre. Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Quand une armée vient m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Comme que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. Ça, c'est ce qu'il a vécu. David était roi d'Israël. Roi d'Israël, ça veut dire qu'il est souverain d'une nation. Et à l'époque, c'était la guerre contre le peuple de Dieu. Les Philistins, les Jébusiens, tous ceux, les Égyptiens, tous ceux qui sont contre Israël, lui faisaient la guerre. Donc oui, David a raison de dire que l'on me déclare la guerre, parce qu'en tant que roi, en tant qu'homme politique, oui, il a cette responsabilité de s'assurer que, voilà, il est prêt pour la guerre. Mais sa préparation en tant que roi, berger du troupeau du Seigneur, du peuple d'Israël qui appartient au Seigneur, sa préparation n'est pas comme la préparation des autres nations. Si les autres nations font la guerre, c'est pour piller, c'est pour détruire. Mais si Israël fait la guerre, c'est pour être l'instrument entre les mains de Dieu. Dieu l'a dit. Je ne les donne pas encore. Quand il a fait cette déclaration à Abraham, ils ne vont pas encore entrer dans le pays promis parce que leur péché n'est pas encore à leur comble. Donc oui, Israël a été l'instrument de jugement entre les mains de Dieu. Et là, le roi David dit, oui, Dieu est ma lumière. Là, on aurait dit, mais si quelqu'un veut t'attaquer, ouais, Dieu est ma lumière, on veut m'attaquer. Non, j'aurais peut-être choisi un autre mot. Dieu est mon bouclier. Oui, Dieu est mon arme. Dieu est mon Kalachnikov. J'aurais dit ça de préférence. Mais dire que Dieu est ma lumière et mon salut, ça montre comment David considérait qu'il était dans les ténèbres. Comment, en étant justement dans cette posture, entouré par ces ténèbres, il avait besoin de cette lumière dans sa vie. Cette lumière lui donnait la sagesse. Jamais un responsable du peuple de Dieu n'allait en guerre sans consulter l'Éternel. Oui, c'est Dieu qui donne la lumière. C'est Dieu qui donne la sagesse pour savoir comment affronter les difficultés, comment affronter les problèmes. David dit, je suis plein d'assurance. Ceci nous conduit à dire que être en sécurité ne dispense pas le croyant des réalités de la vie. L'évangile n'est pas un rêve. Nous, les chrétiens, nous ne vendons pas de rêve. L'évangile, c'est la vérité. C'est la puissance de Dieu qui délivre celui qui croit en lui. Donc, on ne va pas vous dire, acceptez le Seigneur et tous vos problèmes sont finis. Voyez comment mon Dieu est grand. Si vous l'acceptez, aucun ennemi ne pourra se tenir devant toi. Tu ne pourras pas être attaqué. Parce que Dieu est tout-puissant. Ce n'est pas ce que Jésus a dit à ses disciples. Jésus parle à ses apôtres, il leur dit, ce qu'ils m'ont fait, on vous le fera aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont maltraité, ils vous maltraiteront aussi. Donc accepter Jésus, oui c'est vrai. Ce n'est pas juste prendre une décision pour dire que « Ah, I follow Jesus. » Vous avez les followers. Les chrétiens ne sont pas des followers. Juste comme ça, parce qu'on voit la poster un truc là. « Waouh, je follow. » Non. Je sais, ce sont les jeunes qui comprennent ça. Non. Je ne suis pas tout bêtement Jésus-Christ. Non. Si je suis Jésus-Christ, c'est parce que je sais qui est Jésus. C'est parce que je sais ce qu'il a souffert. C'est parce que je sais que l'alliance qu'il nous a proposée, que nous venons de commémorer tout à l'heure, cette alliance scellée par son sang, cette nouvelle alliance nous donne le salut. Oui, nous ne sommes pas exemptés de la, nous ne sommes pas exemptés de des réalités de la vie. Nous tombons malades. Mais nous avons cette assurance que si la maladie vient, on peut aller vers le Seigneur, le prier et qu'il puisse nous guérir. Oui, ça peut arriver qu'un adversaire se dresse devant nous. Ouais, toi, on ne sait pas pourquoi. Des fois, on marche dans la rue, quelqu'un nous attaque, on ne sait même pas pourquoi la personne vient vers nous. On ne sait pas. Mais nous avons cette assurance que quelle que soit l'attaque, le danger que nous puissions, qui puisse venir nous atteindre, mais nous pouvons nous référer à Jésus-Christ qui nous protège, qui peut nous épargner de tout malheur. Le malheur atteint souvent le juste. Vous savez, des fois, nous nous engageons dans des choses, mais nous ne prenons pas vraiment le temps de bien réfléchir. Lorsque les problèmes arrivent, les difficultés arrivent, nous sommes abattus. Et quand je dis nous, je ne me retire pas dedans. Mais tout le temps, je confesse la parole de Dieu. Lorsque nous disons par exemple le malheur atteint souvent les justes, ben, l'Éternel en délivre toujours. Si je vous pose la question, quelle est la partie qui vous intéresse le plus dans ce passage? Même lorsque je le dirai 10 fois pour vous, vous allez entendre toujours, l'Éternel en délivre toujours. Mais nous refusons de considérer le malheur peut atteindre souvent. Le témoignage du peuple de Dieu n'a pas été, lorsque nous lisons dans la Bible, le témoignage d'Israël n'a pas été par le fait qu'il était tellement prospère, qu'il était tellement une grande nation. Non. Le témoignage a été par le fait que Dieu les accompagnait toujours, qu'ils étaient choisis de Dieu. Et oui, étant choisi de Dieu, Dieu nous assure, Dieu nous promet une vie meilleure. Donc lorsque le problème arrive, la difficulté arrive, nous devons dire comme David dans le psaume 34. Nous restons sur le psaume hein, ce dimanche. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Nous dirons comme lui, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors, pourquoi tu as arrêté de chanter parce que tu as des problèmes? Pourquoi tu as arrêté de louer Dieu parce que tu es triste parce que les choses te dépassent. Pourquoi nous arrêtons de chercher le Seigneur lorsque les difficultés viennent? Ben, je vous le dis franchement, c'est parce que c'est la lutte qu'on doit mener. Jusqu'à ce que nous soyons dans ce corps-là, nous serons toujours sujets à la faiblesse. Mais n'oublions pas, la parole de Dieu nous fortifie, nous renouvelle. Donc oui, le Seigneur veut qu'on pleure lorsque la tristesse arrive. Le Seigneur veut qu'on se plaigne même des fois, parce que lorsque nous lisons les psaumes, il y a les psaumes, des plaintes qui se dressent devant Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu condamner cela. Ce qu'il condamne, c'est lorsque le juste arrête de vivre selon la foi. C'est lorsque, au lieu de se tourner vers Dieu, on se tourne vers autre chose. Ce sont les seules remarques que Dieu faisait tout le temps au peuple. Des nations déclaraient la guerre, au lieu qu'Israël se tourne vers Dieu, Israël va chercher des alliances avec l'Égypte, va chercher des alliances avec la Syrie. Mais Israël ne se tourne pas vers son Dieu, qui est son protecteur. Si le croyant est en sécurité, il l'est parce qu'il est au bénéfice de l'œuvre de Dieu. Voici ce que David dit. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Waouh, quel souhait! Qui est prêt à faire ce souhait ce matin? Qui veut dire la même chose comme David? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté. Ah ouais, et de chercher à le connaître dans sa demeure. Au temps de David, c'est dans le temple qu'on devait aller pour adorer Dieu. Au temps du peuple d'Israël, c'est dans le tabernacle qu'on devait aller présenter les offrandes. La convocation se faisait là. Mais aujourd'hui, qui est prêt à dire, je voudrais habiter tous les jours de ma vie à l'église évangélique de Franconville, afin de louer l'Éternel? Ça a changé. Maintenant, ce n'est plus dans un lieu que Dieu habite. Dieu habite en nous, par son Esprit Saint. Donc, on peut le dire, ce que je veux, c'est que tous les jours de ma vie soient une journée où je la passe avec le Seigneur. Il est là, il est en nous. Plus besoin de dire, ah, j'ai des difficultés, le mardi, il y a une prière, bon, je vais attendre la réunion de prière pour pouvoir prier, pour que le Seigneur puisse entendre. Non. Là où vous êtes, vous m'invoquerez et je vous répondrai, dit l'Éternel. Nous avons son esprit. Le voile qui séparait le lieu très saint du reste du temple s'est déchiré. Nous avons accès par Jésus-Christ auprès du Père. Donc, lorsque nous allons vers lui, nous lui demandons quelque chose, qu'il puisse nous écouter. Comme Jésus a dit à la femme samaritaine, le temps viendra, et il est déjà là, où les vrais adorateurs de Dieu n'iront pas sur la montagne ou dans le temple. Non, ils adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Pourquoi en esprit et en vérité? Parce qu'avant, on adorait dans ce qu'il appelle le symbole de ce que Dieu voulait faire. L'image, le type. Nous sommes le temple maintenant du Saint-Esprit. La demeure du Dieu vivant. Si le croyant est en sécurité aussi, ça ne veut pas dire qu'il est dans une dimension parallèle à la réalité. David dit que son souhait vient au partir du verset 5, car il me cache sous sa tente, dans les jours du malheur, au secret de son tabernacle. Il me tient abrité. La conjonction de coordination, grammaire. Ce qui arrive après car explique ce qu'il vient de dire. Ça veut dire que le souhait, ce n'est pas juste un désir pour dire que, bon, ah ouais, je suis là, je souhaite. Non, ce souhait ne vient pas d'un rêve. Ce souhait vient d'une réalité que Dieu a faite, de l'œuvre que Dieu a faite dans la vie de David. Car toutes les fois où David était en danger, Dieu l'a toujours protégé. Dieu l'a toujours abrité. David s'est trouvé au milieu des Philistins, un peuple qui déteste Israël, mais qui a une haine naturelle pour Israël. Et voici que David est en train de fuir Israël. Et il se trouve au milieu des Philistins. C'est ça que j'appelle une situation sans issue. Mais Dieu a protégé David. Même si David a simulé la folie. Vous savez, lorsque un ennemi arrive devant un autre, il n'a pas besoin de savoir s'il est fou ou s'il n'est pas fou. Tout ce qu'il veut, c'est détruire cet ennemi. Et les Philistins savent combien de défaites que David les a fait subir. Et maintenant, l'homme est devant eux, simulant une folie, et qu'ils ont la pitié pour cet homme. Proverbe 16 le dit, lorsque Dieu approuve un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Donc ce matin, oui, nous pouvons dire que nous sommes en sécurité. Pas parce que nous n'avons pas de soucis. Pas parce qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes en sécurité parce que Dieu est notre refuge. Amen.
Amen.
Le désir de David, lorsque nous lisons ce psaume, ce n'est pas de dire qu'il veut dominer pour écraser ses ennemis. Car il sait que là où il se tient, dans cette position de dominer, à la fin du verset 5, où il dit, sur le rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. Ce n'est pas une vengeance sur ses ennemis. Dieu l'a mis sur un rocher hors d'atteinte. C'est le rocher où lui-même, il ne pouvait pas arriver à là. Vous savez, David exprime la grâce de Dieu dans sa vie au travers de ce verset. Le fait qu'il est sous la grâce du Seigneur, il peut déjà dominer ses ennemis. Il peut déjà prendre le dessus sur ses adversaires. Parce qu'il sait que l'Éternel combattra pour lui. Tout ce que David veut, tout ce qu'il souhaite, ce n'est pas la victoire, la domination, mais ce que David cherche au travers de ce passage, c'est que l'Éternel ne l'abandonne pas. Alors, être en sécurité pour David, c'est garder son espérance auprès de Dieu. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Ô Dieu, toi qui es mon sauveur, ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires, lui dit-il au verset 12. Lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. David ne demande pas au Seigneur d'écraser, de mettre sous ses pieds, d'écraser. Non, David dit, ne m'abandonne pas. Parce qu'il a découvert quelque chose. Dans l'expérience qu'il a déjà vécue, il sait que lorsque l'Éternel est avec toi, peu importe la situation, peu importe l'adversaire, peu importe le temps que cela prendra, il sortira toujours victorieux. Alors, pour conclure, Il termine ce psaume par deux versets extraordinaires. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Essayez d'imaginer un jour si vous n'aviez pas Dieu avec vous. Essayez d'imaginer même le problème que vous affrontez là aujourd'hui. Essayez de l'imaginer si Dieu n'était pas avec vous. Mais David n'a pas uniquement dit qu'est-ce qu'il deviendrait si Dieu n'était pas là, mais il va encore plus loin s'il n'avait pas l'assurance. Vous savez, avoir l'assurance, c'est pas simplement de dire bon voilà, rien ne m'arrivera. Avoir l'assurance, c'est de dire, quelle que soit l'issue de ce problème, je reste toujours ancré en Jésus. Rappelons-nous Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient de l'assurance ou pas? Ils avaient de l'assurance. Parce que oser tenir tête à un dieu, à un roi de Perse, de Babylone, et de dire que mon Dieu me délivrera. Je te respecte, toi. Mais je ne me prosternerai pas devant ton statut. Et même si Dieu ne me délivrerait pas. Waouh. L'assurance va au-delà de la réalité. L'assurance, c'est quoi? C'est de dire, quelle que soit la situation, les circonstances, je resterai toujours enfant de Dieu. Quel que soit ce qui peut vous arriver demain. Mon avenir est dans ses mains. Ma vie entière est dans sa sûre main. Tes mains, Seigneur. Le frère dit, son avenir est dans les mains du Seigneur. Sa vie entière est dans sa sûre main. Car l'Éternel connaît les projets qu'il a forgés pour nous, pour son peuple. Ce sont des projets de... et non de malheur. Ça veut dire que le plan de Dieu pour toi, c'est d'être en paix, ma sœur, d'être en paix, mon frère. La paix, ce n'est pas l'absence de trouble. La paix, c'est l'assurance qu'on a, malgré le trouble. Donc ce matin, au travers de ce psaume, au travers de ce partage, j'espère que nous pourrons vraiment nous ressaisir, nous fortifier nous-mêmes, comme Dieu a dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Le temps de vacances, c'est un temps où on réfléchit aussi. C'est un temps où on se dit, bon voilà, la prochaine rentrée, ce sera en septembre. Donc, qu'est-ce que je vais faire pendant l'année? Alors, je conclurai, oui, je finirai par ça, par ces mots de David. Si tu te demandes ce que tu dois faire, si ce problème persiste, reste dans la foi, ma sœur, mon frère. Reste dans la foi. Garde la foi. Et comme David l'a dit, attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Que le Seigneur...